RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour, Grand Reportage nous emmène aujourd'hui en Inde, dans la région de l'Assam, une région qui a lancé un recensement exceptionnel et controversé de sa population. Dans cet état du nord-est du pays, les 33 millions de citoyens doivent prouver qu'ils sont résidents depuis plus de 47 ans, faute de quoi ils seront déchus de leur nationalité. Un exercice monumental venu répondre aux craintes des nationalistes qui affirment que des millions de Bangladais ont infiltré cette région frontalière et obtenu la nationalité indienne. Mais ce recensement est en train de tourner au cauchemar. Plus de 4 millions de personnes ont déjà été exclues de la liste provisoire de citoyens et sont lancées dans une procédure d'appel angoissante. Le résultat pourrait être terrible. Des millions d'Indiens, dont une grande partie de musulmans, pourraient devenir apatrides. La chasse aux immigrés dans la région de l'Assam, c'est un grand reportage en Inde de Sébastien Farsi.
Mon nom ne figure pas sur la liste de citoyens.
Quel est votre nom ?
Anwara Begum.
Nous sommes ici dans l'un des centres d'enregistrement des citoyens, à Guwahati, la capitale de l'état de l'Assam. Cette jeune femme, habillée très simplement, vient d'arriver avec deux sacs en plastique, un jaune et un vert. À l'intérieur, on peut deviner comme une montagne de papiers qu'elle sort l'un après l'autre pour les montrer aux fonctionnaires assis à une table. Si cette femme est ici, c'est parce que, comme elle le dit, son nom n'est pas inscrit sur la liste des citoyens indiens résidant en Assam, une liste publiée en juillet dernier. Cela veut dire que si elle ne fait rien, elle perdra bientôt sa nationalité et sera donc apatride. Elle est donc venue rectifier ce qui est, selon elle, une erreur. Car oui, elle est indienne, dit-elle. Ses parents et même ses grands-parents le sont. Mais comment cette femme de ménage pauvre peut le prouver à cet état indien soupçonneux ? Cela représente une tâche bien compliquée.
Madame Begum, votre père s'appelle bien Moinou Laké, n'est-ce pas ? Donc maintenant, il faut que vous nous apportiez des documents qui prouvent votre relation avec votre grand-père. Est-ce que vous avez des documents pour prouver cela ?
Écoutez, c'est très difficile d'avoir ces papiers. Vous savez, mon père ne vit plus avec nous. Il a quitté notre foyer quand j'étais petite, après s'être disputé avec ma mère. Donc, comment est-ce que je peux maintenant lui demander les papiers de son propre père ? En plus, à cette époque, il n'y avait même pas de carte d'identité. C'est tellement compliqué et angoissant.
La situation de cette femme devient ubuesque quand elle explique aux fonctionnaires que ses propres enfants ont eux été acceptés dans la liste. Selon l'État, son père et ses enfants sont donc indiens, mais elle serait une étrangère arrivée illégalement dans le pays. Anwara Begum semble être en fait tombée dans un enfer administratif et elle n'est pas la seule. Depuis 3 ans, la région de l'Assam inspecte ses citoyens. 33 millions de personnes qui doivent prouver qu'ils ont acquis la nationalité indienne avant le 24 mars 1971. Pourquoi cette date précise ? Eh bien tout simplement car c'est le jour de l'indépendance du Bangladesh voisin. Avant cela, ce pays n'était qu'une région du Pakistan, l'ennemi juré de l'Inde. Et New Delhi a donc accueilli les Bangladais qui fuyaient ses terres. Mais depuis cette indépendance, plus de tolérance. Mais les nationalistes de l'Assam affirment que tout de même, des millions de Bangladais continuent à traverser illégalement la frontière. Il est temps, disent-ils, de les identifier et de les expulser. Samujal Bhattacharya est le secrétaire général du syndicat des étudiants de l'Assam, une organisation politique qui réclame ce comptage depuis les années 70.
L'ancien ministre de l'Intérieur de l'Inde, Indrajit Gupta, a dit à la fin des années 90 qu'il y avait 4 millions de Bangladais résidant à Assam. Or, les déclarations des ministres sont basées sur des chiffres vérifiés. La Cour suprême, elle, a déclaré qu'à cause d'une importante immigration illégale de Bangladais, nous assistons à une agression extérieure qui cause des perturbations dans l'état de l'Assam. Ces étrangers s'accaparent les terres agricoles, la démographie de l'Assam a changé et cela met en danger notre langue, notre culture et notre identité. Nous ne pouvons devenir des citoyens de seconde catégorie. Pour nous, un étranger est un étranger. Qu'il soit hindou ou musulman, c'est la même chose. L'accord de la SAM prévoit que toute personne qui est entrée sur le territoire avant 1971 a le droit à la citoyenneté indienne. Après, ce n'est plus possible. L'Inde est pour les Indiens et la SAM est en Inde. Donc la SAM n'est pas ouverte aux immigrés illégaux du Bangladesh.
That's very clear.
Ce chiffre de 4 millions de Bangladais clandestins est régulièrement cité, mais il est impossible de le vérifier, justement car ce sont des clandestins et que personne ne connaît leur nombre précis. C'est donc une estimation qui circule depuis environ 40 ans et qui nourrit la crainte des assamés. Et c'est pour clarifier la situation que ce syndicat étudiant milite depuis tout ce temps pour réaliser cet enregistrement de la population. Oui, mais maintenant qu'il est en cours, ce test de citoyenneté se transforme en calvaire pour la population et surtout pour les plus pauvres. Nous nous rendons maintenant dans la campagne de l'Assam, à 3 heures de route de la capitale. Nous arrivons dans le village de Pup Shafakamar, près de Parpeta, un hameau de 2000 habitants, en majorité des musulmans. Ici, des vaches paître dans les champs, des poules fuient le visiteur. Un groupe de 6 hommes nous reçoit. Ils ont le regard inquiet. Chacune de leurs familles a été divisée en deux. Une partie a été reconnue comme des Indiens légitimes. Les autres, généralement les femmes, sont exclues de cette fameuse liste de citoyens. Imdadul Islam, 24 ans, sort délicatement un papier plastifié d'un dossier.
Ceci est ma carte d'admission aux examens de 10e classe, la fin du secondaire. C'est ce document qui m'a permis d'être reconnu comme indien. Car vous voyez, il y a écrit le nom de mon père dessus. Ainsi, j'ai pu prouver que j'étais bien le fils de mon père. Mon père et mon grand-père, eux, ont été acceptés grâce à leur titre de propriété. Mais nous n'avons pas pu prouver cette relation de parenté pour mes deux sœurs et ma mère. Car elles ne sont pas allées à l'école et n'ont pas de pièce d'identité. Personne ici n'a de certificat de naissance. Nous naissons tous à la maison, pas à l'hôpital. Les documents scolaires sont donc souvent les plus précieux.
Imdadul nous dit que sa famille vit dans ce village depuis les années 30, au minimum. À l'époque, son grand-père était même professeur dans l'école coranique locale. Mais aujourd'hui, plus de 80 ans après, ses deux sœurs, âgées de 35 et 40 ans, ainsi que sa mère, sont considérées comme des immigrées clandestines. Sa mère, justement, Adjira Khatoum, nous rejoint pour témoigner de sa douleur. Cette femme de 62 ans, sari en coton vert et boucle d'or aux oreilles, a les yeux perçants et l'air triste.
Mes grands-parents, mes parents et moi-même, nous sommes nés sur cette terre. Nous avons voté aux élections, mais soudainement, mes deux filles et moi, nous sommes considérées comme des Bangladaises. Je suis indienne, mais le gouvernement ne me reconnaît plus cette identité. Cela me fait énormément de peine. Je me sens orpheline.
Imdadul, lui, se sent déchiré en entendant sa mère parler.
Nous savons que nous sommes indiens. Nous sommes prêts à nous soumettre à des tests sanguins s'ils le veulent pour le prouver. Mais il faut qu'ils arrêtent de nous harceler. Nous n'en pouvons plus. On se rend compte que c'est plus difficile car nous sommes musulmans. Nous devons montrer plus de papiers que les hindous. Si notre nom est mal orthographié sur un papier, ils nous excluent.
Dans ce village composé principalement de musulmans, plus des deux tiers des familles comptent ainsi des membres qui ont été exclus de la liste de citoyenneté. Cela touche également quelques hindous, surtout ceux qui portent des noms d'origine bangladaise. En tout, 4 millions de personnes ont été exclues de la liste en juillet dernier et pourraient perdre leur nationalité indienne. Cela représente 12% de la population de l'Assam. Certaines erreurs pourtant semblent flagrantes, comme dans le cas d'Ajmal Hake. Cet homme de 51 ans a servi pendant 30 ans dans l'armée indienne, un corps qui scrute généralement bien les origines de chaque recrue. Cet officier est aujourd'hui à la retraite et il se bat contre la machine administrative qui veut le déchoir de sa citoyenneté. Et comme il n'a plus confiance dans le gouvernement régional, il a porté l'affaire devant la Cour suprême indienne.
So in my name, my name Ajmal Haq.
Les autorités ont refusé de m'inclure dans la liste car elles ont dit que j'avais deux plaintes contre moi devant le tribunal des étrangers. Je me suis renseigné. Le premier cas concerne quelqu'un d'autre et pour l'autre, j'avais déjà obtenu un jugement favorable du tribunal qui me reconnaît comme indien. Le directeur de police a même déclaré devant les médias que c'était une erreur de personne, un homonyme. Et malgré tout, mes enfants et moi, nous venons d'être considérés comme étrangers à cause de ces affaires. C'est donc une injustice. J'ai servi pendant 30 ans pour le pays et maintenant, ils veulent me déclarer apatride.
They are going to make me stateless, homeless. No, they are trying to. Because, you know, the border police is framing the cases.
La police des frontières monte ces histoires de toutes pièces, en fait. Mon cousin a une plainte similaire. J'ai trouvé sa prétendue déclaration à la police. Il est écrit qu'il reconnaît être né au Bangladesh et être entré illégalement en Inde. Ce n'est pas signé. Il y a juste une empreinte digitale, comme s'il était illettré. Mais mon cousin est officier dans l'armée. Il est donc lettré. Et au moment où il est censé avoir signé ce document, il était déployé à l'autre bout du pays. Le gouvernement de l'Assam est en train de boire notre sang et de nous tuer à petit feu.
Cet ancien militaire ne croit pas si bien dire. Quelques jours après nous avoir parlé, un professeur à la retraite s'est pendu. Il venait lui aussi d'être déclaré clandestin dans le pays qu'il l'a vu naître. Et de nombreux autres suicides d'ouvriers sans ressources ont eu lieu ces derniers mois dans l'Assam. RFI a cherché pendant des jours à interroger des personnes qui sont en effet arrivées après 1971 et doivent donc être exclues de ces listes. Mais nous n'avons pu trouver personne. Et nous ne sommes pas les seuls. Nous avons parlé à beaucoup de journalistes locaux, militants ou avocats spécialisés et aucun d'entre eux n'a rencontré ces immigrés bangladais visés par ce recensement. Mais le parti nationaliste hindou au pouvoir, le BJP, lui, persiste et signe. L'Assam fait face à une invasion de Bangladais et surtout de musulmans. Sheila Aditya Dev est députée régionale sous la bannière du BJP.
When the agitation against these Bangladeshis took place, way back in 1979,
en 1979, quand les premières révoltes ont eu lieu contre l'immigration illégale de Bangladais, certains ont estimé qu'il y avait 8 millions de clandestins. Avec la croissance démographique, on peut estimer qu'ils sont maintenant au moins 15 millions. Cela fait 15 millions de Bangladais vivant clandestinement en Assam ou dans le reste du pays, car depuis l'Assam, ils ont bougé ailleurs. Maintenant, vous avez des Bangladais à Delhi, à Bangalore, à Bombay, ils sont partout. Vous allez à Thane, à côté de Bombay, vous voulez acheter du poisson, ce sont des Bangladais qui vous le vendent. Les conducteurs de triporteurs, ils sont Bangladais. Vous pensez qu'ils arrivent par avion depuis Dhaka? Non, ils arrivent en Assam, ils s'acclimatent ici et après ils bougent ailleurs.
And then shifting bases elsewhere.
La crainte principale de ces nationalistes hindous est de voir la population musulmane grandir dans la région et dépasser celle des hindous. Et en effet, celle-ci augmente rapidement. Dans les 50 dernières années, la proportion de musulmans en Assam est passée de 24 à 34%. Mais cela ne serait pas vraiment dû à l'immigration illégale, mais à un facteur beaucoup plus naturel, un taux de natalité particulièrement élevé chez cette population musulmane indienne, majoritairement pauvre et sans accès à la contraception. C'est l'explication d'Abdul Manan, ancien professeur de statistique à l'université de Guwahati et auteur d'un ouvrage sur la question.
Muslims in rural areas, illiterate Muslims.
Les musulmans qui vivaient à la campagne ces dernières décennies étaient en général illettrés et pauvres. Ils mariaient leurs filles très jeunes, à 13, 14 ou 15 ans. Un an après, cette fille met un bébé au monde. Si cet enfant est une fille, elle est encore une fois mariée à 15 ans. Elle est à nouveau mère très jeune. La première fille n'a alors que 30 ans et elle est donc déjà grand-mère. À cet âge, une femme éduquée qui a des ressources vient à peine d'avoir son premier enfant. Il y a donc un énorme écart. Quand les musulmans arrivent à la quatrième génération, les hindous et communautés plus riches en sont à peine à la deuxième génération. Pour moi, cela est la principale raison du taux de croissance plus important chez les musulmans. Il y a bien sûr la migration qui vient du Bangladesh, mais clairement pas d'une ampleur aussi énorme que ce qui est affirmé. Et si des migrants sont restés en Inde après l'indépendance du Bangladesh, ils ne sont pas musulmans. Les musulmans ont bien trop de mal à vivre ici. La loi ne les protège pas et ils sont constamment persécutés par la police.
Police never favored them. Law never favored them.
Beaucoup de chercheurs et même des politiciens reconnaissent qu'une certaine partie des migrants qui sont arrivés du Bangladesh depuis 40 ans ne seraient pas musulmans, mais hindous. Des hindous fuient en effet ces dernières années ce pays à forte majorité musulmane et où ils sont souvent réprimés. Ces fameux clandestins arrivés en Inde après 1971 seraient donc plus hindous que musulmans, une probabilité qui embarrasse fortement les hindouistes indiens, car selon les règles du recensement actuel, il faudrait alors les renvoyer au Bangladesh. Le parti du BJP le sait et prépare sa riposte. Il a ainsi présenté un projet de loi qui permettrait à tout Bangladais, Pakistanais ou Afghan de confession hindoue ou sikh de rester en Inde et d'obtenir la nationalité. Ceci sous prétexte que sa vie serait en danger dans ces pays musulmans. Ce texte est dénoncé par beaucoup car il viole le principe de laïcité fondateur de la République indienne. Mais le député de l'Assam, Sheila Aditya Dev, tenant de la frange dure du BJP, assume complètement cette proposition.
I do believe the Hindus are born in India. Durga, Kali, you must have heard all these names, God and goddesses.
Je crois profondément que tous les hindous sont nés en Inde. Les dieux hindous, comme Durga ou Kali, sont bien nés en Inde, pas en France ou à Londres. Les hindous estiment donc que c'est leur droit de naissance de revenir en Inde, depuis n'importe quel endroit dans le monde, s'ils ont des problèmes. Et je crois qu'à l'avenir, nous devrions voter une loi du retour, comme en Israël, celle qui permet à n'importe quel juif du monde de trouver refuge en Israël. L'Inde n'a pas une loi similaire qui protège ses enfants. Pourquoi ? Car nous sommes laïcs. Parfois, dans cette Inde très libérale et laïque, je ressens que les hindous, bien que majoritaires, sont en train de disparaître, et cela ne doit pas arriver.
Quatre millions d'Indiens sont donc pour l'instant considérés comme des immigrés clandestins et ils ont jusqu'au 15 décembre prochain pour faire appel. Si cet appel n'est pas accepté, eh bien ces personnes devront ensuite se tourner vers le tribunal des étrangers, une instance encore plus compliquée à convaincre car les membres de ce tribunal sont nommés par le gouvernement et subissent d'énormes pressions pour déclarer un maximum de personnes étrangères. Au bout de la procédure, des centaines de milliers d'Indiens pourraient donc être déchus de leur nationalité. Personne ne sait vraiment ce qui leur arrivera ensuite, car il sera difficile de les expulser, comme l'explique Aman Vadou, avocat spécialisé du droit des étrangers dans l'Assam.
Those people cannot be sent back to Bangladesh because they will definitely not have a place in Bangladesh.
Ces personnes affirment qu'elles sont indiennes et ne reconnaissent avoir aucune autre nationalité. Il sera donc impossible de les expulser car l'expulsion suit un procédé légal très clair. La personne expulsée doit être acceptée par le pays où on l'envoie et pour cela, ce pays doit confirmer son adresse sur place. Il est donc certain que ces personnes ne seront pas expulsées. Qu'est-ce qui leur arrivera alors? Seront-elles déclarées apatrides? Le ministre en chef de l'Assam a déjà déclaré que ces personnes ne bénéficieront d'aucun droit fondamental. Ce qui est vraiment effrayant à entendre de la part du chef du gouvernement, car cela veut dire aucun droit à la dignité ou à l'égalité. Et cela va dans le même sens que les déclarations du chef du parti du BJP. Celui-ci a dit que ces 4 millions de personnes sont des infiltrateurs, que ce sont des termites bangladaises. Ce chef du parti majoritaire en Inde est en train de créer un récit qui est très très dangereux, car cette sorte de déclaration a toujours entraîné des génocides.
He is definitely trying to create a narrative which is very, very dangerous. You know, this kind of narrative have always led to genocide.
Beaucoup ici ont en tête la répression menée contre les Rohingyas musulmans, une répression qui a forcé 700 000 d'entre eux à fuir la Birmanie vers le Bangladesh l'année dernière. La situation n'est pas aussi dramatique en Inde, mais ce qui est sûr, c'est que comme la Birmanie, l'Inde est en train de créer des centaines de milliers d'apatrides, des citoyens de seconde zone qui croupiront en prison pendant des années, voire des décennies, au nom de la lutte contre l'immigration illégale et pour la défense de l'identité nationale et religieuse. La région de l'Assam lancée dans une chasse aux immigrés, c'était un grand reportage de Sébastien Farcy, réalisation Pierre Chaffanjon.